You're paying to get out tonight.
Au revoir pour les bandes continues.
Et on retrouvera Mayday la semaine prochaine à 18h. Bisous, bisous.
Et là, c'est les... bientôt après les bandes continues, ce sera les Canu Info.
Tu reprends ta respiration après cette bande continue tout en énergie où tu as pu entendre Moutoni Drummer Queen avec Suzy Noma.
C'était suivi des Amazones d'Afrique en compagnie d'Angélique Kidjo pour le titre Dombolo.
Et pour finir, Buraka Sound System featuring avec Pongo Love et le titre Kalamba Wege Wege. C'était Radio Canu au 102.2.
Eh oui.
Face in various places, alone is enough to spark some conversations. Some complications might arise when you don't understand what's in front of your eyes. Try to shove me out and box me in and end up with a butterfly knife under your chin. I'm walking the streets like I own the whole city. In the night I got my homegirls rolling with me, well aware that some don't fight fair. They have sharp razor blades hidden in their hair, and they walk with stilettos with daggers for heels and dildos and holsters of chromium steel and studded belts to whip you into shape. Fishnets to castrate, perpetrators of rape. Mess with the crew would leave you confused. Just seal up your lips with some fake eyelash glue. For any fight you could pick with them, they walk around with purses with heavy bricks in them, spitting venom with switchblades with them, giving out free homemade circumcisions. Are you next? Do you want a piece of this? Let me introduce you to my friends. First meet the fist, I'm a feminist first, then Aquarian second, and I make sure my interests get protected and views projected into the world. To my high class and outcast army of girls, if you're hot on our trail, it's not hard to find us. We always leave traces of glitter behind us. Chaos gold, freedom, control, chaos and gold, freedom, control, chaos and gold, freedom, control, chaos and gold, freedom, control. The people when I come through town with an interpretive dancer that follows me around. It's a secret circus, a private committee that decided to bring the jungle into the city with color and fashion, madness and style. In the court of sex appeal, this record is on file, and we all stand on trial in front of a jury of peers. But is your judgment based on desire or fear?
If you want sweat and diamonds, I'll show you where to find them. There's no going back like a busted hymen, like cats that are wild, kept in a cage.
Le journal, demandez-le, le journal des jours, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
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 Il est 19h passé de 7 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
C'est après l'heure.
C'est après l'heure.
Ouais, bon,
et
bah.
Allez, on parle de quoi ?
Avec des nouvelles du fond Marianne.
Des nouvelles des TDS de Gerland, des travailleuses du sexe.
La chronique de Laurent de la Housse. Blues.
De la bouse.
La vague d'arrière. Cette histoire de vague d'arrestation dans les milieux écolos, c'était lundi déjà, mais la plupart sont encore en garde à vue.
Et du coup, après, c'est trop tard pour sauver la banquise.
C'est aussi trop tard pour sauver Carnac.
Et puis, ça sera Il faut que ça se sache, avec des brèves de frontières.
Et on commence.
Et on commence par une brève tout de suite parce que, disons-le tout de suite, on sait enfin où est le rassemblement en soutien aux personnes arrêtées lundi, dont on va parler plus tard. Et donc, aux personnes dont la plupart sont encore en garde à vue pour cette action au mois de décembre dernier contre Lafarge dans les Bouches-du-Rhône. Alors, c'est tout de suite, c'est même tout de suite passé de 8 minutes puisque le rassemblement était à 19h. Si vous abandonnez votre radio et que vous y filez,
on est plutôt content.
On est plutôt content. Et donc c'est à la préfecture, 19h à la préfecture, on peut y aller tout de suite. Et vous pourrez aussi nous réécouter plus tard sur le site de la radio. On va quand même juste noter à destination des personnes qui ont organisé ce rassemblement partout ailleurs en France. On savait où était le rassemblement longtemps à l'avance. Là, il a fallu attendre 18h pour que les gens bien placés sur Instagram ou sur Twitter aient droit à l'information.
Peut-être qu'il y a eu des aléas dont on n'est pas au courant.
Ouais, peut-être, ouais. Enfin bon, si vous voulez qu'il n'y ait pas de monde, c'était une très bonne manière.
Peut-être que c'était stratégique. En même temps, t'y es pas toi, donc pourquoi tu te plains ?
Ouais, moi je fais le boulot ici, moi.
Alors, bref, suivante. Mystère. Loi immigration. Avant les négociations avec la majorité, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, évoque une défaillance chez Gérald Darmanin. Son problème, c'est son aile gauche. Étonnant. Mais alors, s'il n'a pas qu'une seule aile à l'extrême droite, pourquoi il tourne en boucle comme ça ?
Bon, c'est pas une brève, mais hop, on parle du fonds Marianne.
Ouais, c'est ça, on rigole un peu avec le fonds Marianne. Alors, vous voyez, rapide résumé. Juste après la mort de Samuel Paty, le gouvernement avait décidé de filer du pognon à des associations pour faire de la prévention contre la radicalisation. Ça fait beaucoup de sion. Marlène Schiappa, qui était à l'époque déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, était chargée d'attribuer la thune. Il y a quelques mois, Mediapart a révélé que des centaines de milliers d'euros avaient été fourgués ici à des associations qui n'existaient pas vraiment, là, à des gens qui pour cette thune-là avaient fait quelques tweets, ou encore à d'autres gens qui, du coup, pour à chaque fois des centaines de milliers d'euros, avaient fait une petite série de vidéos pour expliquer que tous les opposants politiques à Macron, mais c'est-à-dire vraiment comment elle s'appelle la maire de Paris déjà ?
Annie Dingo.
C'est ça. Était de toute façon plus ou moins islamo-gauchiste. Bref, ces gens ont eu vraiment beaucoup de thunes pour faire pas grand-chose et surtout pas grand-chose qui puisse, d'une manière ou d'une autre, être réellement considéré avec un tout petit peu de sérieux comme servant à quoi que ce soit contre la radicalisation. Marlène Schiappa, quand on lui a parlé de tout ça et de ce qu'était devenu cette thune, a expliqué que, elle, de toute façon, elle n'avait pas trop regardé les dossiers personnellement,
que c'était ses sous-fifres qui avaient pris les décisions tout seul, qu'elle connaissait personne dans les gens qui avaient eu la thune, et puis qu'elle était d'ailleurs justement en vacances à cette époque-là, enfin... Alors, malgré tout, le Sénat a mis sur pied une commission d'enquête qui auditionne en ce moment quelques ex-fonctionnaires de son ex-ministère. Et ils sont tous de plus en plus nerveux, parce qu'il y a aussi, il faut bien le dire, une information judiciaire qui a été ouverte. Ils sont tous de plus en plus nerveux et ils cherchent tous alors à défendre leur ex-ministre de tutelle, mais à se défendre un peu eux-mêmes aussi. Je ne féminise pas parce que c'est que des mecs. Et du coup, bah, ma foi, ça tombe un peu, puis ils se coupent un peu, puis les sénateurs qui en veulent à la Macronie pour des mauvaises raisons, mais les pressent un peu. Alors après, ils essaient de répondre aux questions, mais ils ne savent pas bien. Donc finalement, il s'avère que Marlène Schiappa est personnellement intervenue pour mettre un veto sur le dossier déposé par SOS Racisme. Pourquoi ? Bah parce qu'elle s'était engueulée avec le président de l'association, Dominique Sopo. Du coup, elle a dit non, à lui, on le file zéro thune. On apprend aussi qu'elle a beaucoup reçu ce Mohamed Sifaoui. Mohamed Sifaoui, qui est le représentant de l'USOPPM, c'est-à-dire l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Juste avant que lui-même dépose un dossier. A priori, c'est quand même elle qui lui a dit vas-y Momo, dépose un dossier. Et alors que jusqu'à maintenant, elle a plutôt dit qu'elle ne le connaissait pas trop, qu'elle ne savait pas trop qui c'était. L'USOPPM, c'est l'association qui a reçu la plus grosse thunasse de ce fonds, 335 000 euros, pour faire finalement quelques posts sur Instagram et quelques vidéos vite fait réalisées sur YouTube. Marlène Schiappa devait tenir ce matin un point presse, mais elle l'a finalement annulé au dernier moment, après l'audition de son ancien directeur de cabinet, qui venait donc de raconter ce que je viens de vous dire. Et on dirait qu'elle a eu besoin d'une petite pause pour réfléchir à sa prochaine version des faits. Donc, comme je l'ai dit, une information judiciaire a été ouverte sur son cas. Décidément, depuis, je pense, la Troisième République, on n'a sans doute jamais eu un gouvernement où autant de ministres, d'ex-ministres ou de secrétaires de je sais pas quoi sont poursuivis par la justice d'une manière ou d'une autre.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios. Info.
Alors vous avez peut-être suivi depuis novembre dernier les travailleuses du sexe qui exercent à côté du stade de Gerland, qui sont en camionnette. Elles connaissent des vagues de violence et de répression assez violentes. Ça commence avec un collectif qui se nomme lui-même le collectif de parents des enfants jouant au stade la journée.
C'est, voilà.
C'est explicite, voilà. Qui vient nourrir une polémique et un énième débat sur la légitimité des travailleuses du sexe d'être présentes dans l'espace public. Alors concrètement, elles ont subi surtout des passages de drones, des photos prises contre leur volonté par des personnes qui se prétendaient journalistes. Et puis les agressions se sont multipliées. En février, elles se sont constituées en assemblée générale. Elles publient un communiqué et deux communiqués pour apparaître comme des interlocutrices directes. La médiation a débuté avec la mairie et avec les riverains. Et elle est mise à mal en avril par l'annonce d'un arrêté préfectoral sous prétexte de la Coupe du Monde de rugby qui est prévue pour septembre et des JO en 2024 qui ne sont pas à Lyon mais à Paris. On les accuse officiellement d'être un trouble à l'ordre public. Comme à Paris, où les pauvres, principalement les migrants, sont chassés, ces dernières semaines, on a par exemple incité les sans-abri à aller s'installer en Bretagne ou dans d'autres régions, et les sans-papiers à vider les hôtels. C'est la même démarche à Lyon pour préserver la Coupe du Monde de rugby, pour faire plaisir au collectif de parents des enfants jouant au stade de la journée. Et le 4 mai, l'arrêté est appliqué, l'arrêté préfectoral, il est appliqué, il comprend finalement... la majorité de l'arrondissement, il touche donc finalement 400 personnes, dont la majorité loge dans des camions, qui se garent par petits groupes la journée pour se reposer. La fourrière menace leur logement, il n'y a pas de solution proposée, alors qu'elles étaient prêtes à négocier. On peut vous lire un extrait d'une lettre du 15 mai qu'elles ont signée, donc signée des femmes qui dorment dans les camions. Comme la Paris où les SDF sont virés du centre, les TDS de Gerland sont balayés sans solution, la fourrière s'enrichit sur leur délogement. Si notre camion est emmené par la fourrière, c'est notre maison que vous emmenez. Depuis l'annonce de l'arrêté préfectoral, nous subissons les menaces des négociateurs qui proposent des rapports sans préservatif, des personnes malveillantes qui nous suivent le matin quand nous quittons notre lieu de travail nocturne. car ils se disent que la préfecture est de leur bord et ne nous protège pas et que nous sommes désormais prêts à tout pour un peu de monnaie. Les agresseurs se sentent protégés par cette décision publique. Cet arrêté préfectoral met en danger les femmes. Nous voulons des interlocuteurs et des solutions. Ça, c'était un extrait de leur lettre du 15 mai. Alors, le collectif de soutien et les TDS ont déposé un référé pour contester l'arrêté préfectoral. L'audience a eu lieu lundi dernier. Et le juge a, sans surprise, rejeté le référé sans en justifier la raison. L'arrêté préfectoral n'est donc pas remis en cause et elles sont toujours sujettes à des expulsions et à la fourrière pour leur camion. Pendant l'audience, la préfecture a nié qu'il y avait des femmes qui habitaient dans leur camion malgré les témoignages. Et par ailleurs, des courriers avaient été envoyés à Darmanin. Darmanin qui a informé transmettre les sollicitations à la préfecture du Rhône qui elle-même propose des arrêtés pour virer les TDS. Voilà, on peut les soutenir si on veut en participant à leur caisse de grève qu'on trouve sur papayou-solidarité. Je sais pas quoi, vous trouverez ça, pour leur permettre de se déplacer en manif, de continuer leur lutte, etc.
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent Delabeuse.
Bonsoir. Ça gaze ? Bon, toi, je t'ai vu hier, je sais qu'au moins hier, ça gazait. Et pendant qu'une partie du peuple se promenait sous les lacrymos, le président Macron, lui, se promenait au Mont-Saint-Michel. Alors qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas, le futur détrôné ? Est-ce qu'il est allé commémorer le débarquement ? Est-ce qu'il est allé chercher un endroit inaccessible aux casseroles ? Est-ce qu'il y est allé pour trouver des informations utiles pour sa situation personnelle ? Par exemple, en observant le château pour savoir comment on fait pour être encore debout quand on est entouré de sable mouvant ? Eh ben non. Apparemment, il y est allé parce qu'il devait y avoir, je sais pas moi, la journée internationale du dicton à 2 francs, ou peut-être le festival de l'expression pourrie, ou alors un concours à thème, invente ton propre proverbe de merde. En effet, une fois sur les lieux, il n'a accepté de répondre à aucune question sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mais quand on lui a demandé ce qu'il en était des rumeurs de mésentente avec sa première ministre, là, il est monté au créneau. Il a commencé par dire tout sourire, ce qu'on a voulu créer avec la première ministre, ce n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Et c'est là qu'il a sorti avec un immense sourire et un accès de fierté impossible à dissimuler une phrase venue de l'espace. En même temps, pas très étonnant, quand on connaît le gars, ça fait longtemps qu'il n'a pas touché terre. Alors je vous cite cette fameuse formule qu'il a lancée aux journalistes concernant le conflit qu'il opposerait à Elisabeth Borne. On crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. Eh ben voilà, fallait avoir fait l'ENA pour trouver une punchline comme ça. Bon, mais après, nous on peut en trouver aussi, hein. Genre, on avale des salades et il n'y a même plus de terre. Ou alors, on organise des manifs et il n'y a même plus de gouvernement. Ou on fabrique des pigeons et il n'y a même plus de trottoir. J'en ai même trouvé une en pensant à toi aussi. On entend des conneries et t'es même plus là.
C'est pas ce que je t'ai fait.
Mais voilà, en fait, il est peut-être pas con, Macron. Si ça se trouve, il fait ça pour éviter qu'on parle de la contestation sociale. Et les vrais cons, c'est ceux qui en ont parlé de cette phrase, les vrais cons. C'est ceux qui ont repris cette phrase, qui l'ont citée, qui l'ont analysée, qui l'ont commentée. C'est eux les vrais cons. Ah merde. Bon, pas grave, je vais me rattraper. Parce que s'il a noyé le poisson, c'était peut-être aussi pour éviter qu'on parle du rapport d'enquête sur le fonds Marianne. Alors même si t'en as parlé, je vais en redire un petit mot. Le fonds Marianne, c'était un projet lancé par Marlène Schiappa à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. 2,5 millions d'euros avaient été débloqués pour financer des associations dont les activités seraient de promouvoir les valeurs de la République et lutter contre le séparatisme et l'islam radical sur les réseaux sociaux. Quand des journalistes ont commencé à demander à qui avait été donné l'argent, on leur a répondu que pour des raisons de sécurité, la liste des bénéficiaires était gardée secrète. Aujourd'hui, après un premier rapport d'enquête, on sait que le pognon a été distribué comme les flics distribuent des mandales, c'est-à-dire à ceux qui passent par là et qui ont la gueule de l'emploi. Alors d'abord, la plus grosse partie, c'est-à-dire 355 000 euros, ça tu l'as déjà dit, est allée à l'USEPPM, Union de Société d'Éducation Physique et de Préparation Militaire. A priori, on voit pas comment une telle asso va lutter contre la déradicalisation sur les réseaux sociaux. C'est pas grave, parce que l'argent a servi à salarier le dirigeant de cette association, qui n'est pas resté puisqu'il est tout de suite devenu directeur de la communication du Football Club d'Angers. Bon, alors, cette année, on a décidé de gagner le championnat en y allant match après match et en évitant d'égorger des infidèles.
Ça, c'est un accent d'Angers ?
Oui, mais Angers du Sud. En ce qui concerne le jeu, on va privilégier les passes courtes et la laïcité. Et voilà, fermez vos gueules et signez le chèque.
On avait dit que les accents ils restaient dans l'émission d'avant, normalement.
Tais-toi. La deuxième asso qui a reçu un maximum de subventions, c'est-à-dire 300 000 euros, c'est Reconstruire Ensemble. Une association qui n'existait pas avant la création de ce financement et qui depuis a eu pour seule activité de critiquer des personnalités de gauche sur les réseaux sociaux. Encore une belle sortie de Marlène Schiappa, l'ancienne ministre du droit des femmes qui avait publié une tribune pour défendre Nicolas Hulot qui n'était accusé que d'une dizaine de viols. Connaissant Macron, on lui promet un bel avenir au gouvernement. Mais maintenant, contrairement à Macron, moi j'ai pas peur d'aborder le vrai sujet du moment, les retraites. Hier, on a encore eu une belle journée de manifestation, déterminée, engagée et avec une émouvante démonstration de solidarité entre manifestantes aux différents moyens d'action, en tout cas à Lyon. Au niveau des déclarations politico-syndicales, pour celles et ceux qui étaient perdus depuis quelques mois, ne vous inquiétez pas, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, est redevenu un mouton. Tu as vu passer celle-là ? Avec ça, tu peux gagner une saucisse frite au concours du jeu de mots de 5% sur grâce. Il a déclaré « Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non ». Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on lui a demandé ce que lui comptait faire, il a répondu « Je vais d'abord me taire et me reposer ». Bravo Lolo, dors bien et ferme bien ta gueule. C'est ce que tu peux faire de mieux pour le mouvement. Autre déclaration, celle d'Olivier Faure, chef du Parti Socialiste. Ça vous dit quelque chose ? Un visionnaire celui-là. Il perd pas espoir et il mise sur ses points forts. Écoutez, ce combat ne s'interrompra pas, ne serait-ce que parce qu'il y aura d'autres échéances démocratiques et que les Français auront la possibilité, dès les prochains scrutins, de rappeler au chef de l'État qu'il ne partage pas son avis. Donc, rendez-vous dans les urnes. Bien vu. Une belle stratégie qui a porté ses fruits. Hein. Avec 1,75% des voix aux dernières élections, en voilà un qui a tout compris.
Et puis la dernière fois qu'on a élu quelqu'un du PS, comment dire ?
La dernière fois, 1,75%, ils ont pris. Hey Olivier Faure, si au prochain congrès du parti, quand tu parles, il y a de l'écho, te bile pas et ouvre la fenêtre. En parlant de gens qui ont tout compris, je vais vous laisser réfléchir sur la déclaration de Marine Tondelier, la chef des Verts. Vous allez voir, c'est clair et sans appel. Je cite. Ils disent « on a gagné, c'est fini, mais ils n'ont pas gagné et on n'a pas perdu. On n'a pas non plus gagné et ils n'ont pas non plus perdu. Ça valait le coup d'ouvrir sa gueule. Quant à moi, je pense qu'on a gagné, au moins en termes de convergence des luttes, de détermination, de rage et de solidarité. Et le mouvement continue. Et si dernièrement, la répression s'abat de plus en plus fort sur les militantes et militants avec arrestations et perquisitions en pagaille, ne serait-ce pas le signe que, parmi les tigres de papier qui composent notre gouvernement, personne, mais alors personne, personne n'a craqué ! Personne n'a craqué !
Bon, et la rage continue dans le morceau qu'on va s'écouter, c'est le morceau Intersex de The Darts. Qui doit se lancer normalement.
Mais sa mère.
pretty girls, pretty boys, pretty much. Say you wanna.
Poum, poum. Et ben on va parler arrestation, histoire de se mettre un peu de baume au cœur.
Et oui, puisque lundi matin, les flics de l'ASDAT ont débarqué dans plusieurs maisons, dans plusieurs villes et villages de l'Hexagone. 15 personnes ont été embarquées en garde à vue. 3 ont été libérées depuis, mais en attendant une convocation devant le juge. Et les, du coup, 12 autres sont encore derrière les barreaux. Et en garde à vue, puisqu'il y a une histoire de, je sais même plus, violence, avec des tonnes de circonstances aggravantes qui font que c'est une garde à vue qui peut durer jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire 4 jours. Alors pourquoi ? Eh ben, au mois de décembre dernier, 200 personnes vêtues de combinaisons blanches avaient investi l'infrastructure de Lafarge à Bouc-Bel-Air. Lafarge, vous savez, le fabricant de ciment. Bouc-Bel-Air, c'est à côté de Marseille. Et avaient revendiqué une attaque par tous les moyens. Du coup, dans leur communiqué, on pouvait lire le sabotage de l'incinérateur et de dispositifs électriques, câbles sectionnés, sacs de ciment éventrés, véhicules et engins de chantier endommagés. Sans attendre une COP 2050 et 3 degrés de plus, les militants avaient annoncé vouloir mettre en échec par les moyens adéquats les projets éco-suicidaires d'aménagement du territoire et détruire les infrastructures qui les rendent possibles. Alors, après avoir déploré de très importants dégâts, le groupe Lafarge avait déposé plainte à Marseille. Très importants dégâts, je ne sais plus si c'est dans ce que j'ai copié-collé ou s'il vaut mieux que je le, que je le précise, mais il parlait quand même de 4 millions d'euros de dégâts. L'action qui avait été qualifiée de désarmement par les activistes, alors ça c'est chez les écolos, il y a ce nouveau concept du désarmement qui est l'idée de, bah, ma foi, les choses qui nous empoisonnent, qui empoisonnent la planète et qui font que la vie va être de moins en moins vivable, juste les empêcher de fonctionner. C'est ça cette idée de désarmement, les empêcher réellement, quoi, pas y aller et niquer les trucs, quoi. Donc cette action avait duré un quart d'heure, pas plus, et personne n'avait été interpellé en flagrant délit. Les gens étaient arrivés, ils avaient pété les machins, ils étaient repartis. Rien n'a filtré depuis sur les éléments qui ont conduit les enquêteurs jusqu'aux personnes qui ont été interpellées lundi. Aujourd'hui, les soulèvements de la terre qui ont fait un communiqué de solidarité dénonce l'escalade répressive que le gouvernement mène contre les mouvements sociaux et écologistes. Il rappelle les violences policières à Sainte-Soline lors de la manifestation contre les méga-bassines, c'était en mars. Et il dénonce un régime d'exception alimenté par le spectre de l'éco-terrorisme ou encore les menaces de dissolution contre les soulèvements de la terre. Puis on se rappelle de cette histoire après la manifestation de Sainte-Soline où les manifestants ont vécu une violence comme jamais, d'après la plupart des témoignages de gens qu'on a croisés depuis. Après ça, et ben ma foi, Darmanin avait parlé d'éco-terrorisme et avait annoncé son projet de dissoudre les soulèvements de la terre qu'il accusait d'être l'association à l'origine des violences à Sainte-Soline. Bon, les activistes affirment que par cette criminalisation, c'est bien l'association de malfaiteurs qu'ils constituent avec les industries mortifères que le gouvernement révèle. L'opération en cours qui a engagé de nombreux effectifs de police parisiens arrive à point nommé. En effet, le gouvernement avait justifié sa décision de vouloir procéder à la dissolution des soulèvements de la terre après les affrontements de Sainte-Soline par une lettre de grief qui relatait les événements militants relayés par le mouvement et notamment plusieurs actions contre Lafarge. En l'occurrence, par exemple, pour cette histoire à Bouc-Bel-Air, les soulèvements de la terre avaient juste posté sur leur site le communiqué de revendication. Et puis aussi en juin 2021, les soulèvements de la terre s'étaient associés à Extinction Rebellion pour envahir un autre site de Lafarge ainsi que du groupe Equium au port de Gennevilliers. Alors voilà, on peut toujours se dire aujourd'hui que de voir l'ASDAT en action pour sauver Lafarge, pour courir à la rescousse de Lafarge, ça a un petit côté qui serait comique si c'était pas tragique. Lafarge qui, on le rappelle, a filé tellement de pognon à Daesh à l'époque où il voulait pouvoir continuer à bosser en Syrie que, par exemple, alors en France, il y a une, je sais plus quoi, il y a un procès qui est lancé contre eux, mais enfin, ça depuis un sacré paquet d'années, et puis ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Mais aux États-Unis, qui ont moins un enjeu de protection de Lafarge, eh ben, Lafarge a dû payer une amende, une sorte de compensation de 778 millions de dollars pour, ma foi, éviter des véritables poursuites judiciaires pour soutien au terrorisme. C'est pas nous qui disons que, que les terroristes, ils sont quand même plutôt du côté de Lafarge que du côté des autres. Avec cette histoire, on peut voir que les enjeux écolos deviennent des trucs carrément de plus en plus tendus. C'est quand même pas évident de trouver 200 personnes qui sont capables de faire une sorte de raid sur une usine et de tout péter. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui se veut, qui est annoncé au départ comme pacifique ou je sais pas quoi. Les gens, ils sont réveillés, ils ont vraiment tout pété. Vous pouvez aller voir sur lundi matin. Il y a, pour l'instant, c'est en une un article qui parle de ces arrestations, mais qui est suivi de plein de photos de l'action. Et bon, les gens, ils ont vraiment tout pété en un quart d'heure. Et face à ça, pour le coup, quand même, malgré tout, une réponse répressive qui est quand même vraiment assez énorme. Et comme l'a souligné une députée écolo à l'Assemblée nationale, qui a engueulé Darmanin ce matin, ça veut aussi dire des moyens financiers et humains de mis par les flics, par la police, pour cette répression, qui sont aussi assez énormes. Et ben voilà, c'est juste que tout est de plus en plus tendu autour de cette histoire de survie sur la planète, et que d'un côté, il y a ceux qui ont du pognon et qui trouvent que, ma foi, c'est ça qui doit l'emporter, et puis ceux qui n'ont pas de pognon et qui trouvent que, ma foi, ils aimeraient bien rester vivants. Et c'est ça dans les choses qu'on peut remarquer sur ce coup-là, c'est que c'est pas seulement Rébellion lundi matin ou Radio Canu qui a envie de soutenir les personnes interpellées, c'est une députée écolo, c'est Mediapart, c'est des gens qui sont quand même autrement plus qui ont autrement plus la parole légitime que nous on peut l'avoir.
Canu Info.
Attends, mais t'as dit qu'on n'était pas du tout légitime en fait. C'est comme ça que t'as fini ton article.
J'ai pas trop aimé comment il a fini son histoire. Mais, on sait pas
pourquoi.
Il m'a
fallu 5 secondes de jingle pour réaliser, mais non, ça va pas du tout.
Nous, on a une sorte de légitimité qui est la légitimité de l'honneur et de la probité.
On n'est pas légitimisé, tu veux dire.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Allez, n'écoutez pas.
Moi, justement, je vais avoir une parole légitime et tout, et je vais dire à ces gens qui gagnent de l'argent qu'apparemment ils ont raison, enfin qu'ils veulent gagner de l'argent, parce que c'est trop tard pour sauver la banquise. Les chercheurs ont revu leurs prévisions à la baisse ou à la hausse selon comment on se place. Alors, pour faire ce petit truc qui n'est pas une brève, parce que je me fais engueuler parce que mes brèves sont trop longues, j'ai tapé machin, banquise, machin, et du coup, je suis tombé sur des résultats de 2020. Et en 2020, on tablait sur une fin de la banquise, enfin une disparition en été de la banquise pour 2050. Là, on est en 2023, donc même pas 3 ans plus tard, quoi. Et on en est plutôt à une trajectoire de disparition de la banquise pour l'été à partir des années 2030. Alors à ce rythme-là, d'ici l'année prochaine, on est sur une disparition de la banquise pour 2020. Mais bon, voilà.
Il suffira d'y aller l'hiver au bout d'un moment.
Est-ce que tu as vérifié s'il y avait encore une banquise là maintenant ?
C'est pas très grave.
Alors, j'ai vérifié, il y a une photo avec un ours polaire jaune, donc a priori c'est encore bon. Alors, la vérité c'est que la date exacte, on ne sait pas vraiment, c'est des projections, du coup avec les variations intersaisons de je sais pas quoi, enfin j'ai rien compris, c'est des trucs de gens qui font de la météo. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être entre 2050 et 2030. Par contre, ce qui est sûr maintenant, c'est que c'est plus une projection. Il va vraiment y avoir plus de banquise et il n'y a aucune chance, vu les trajectoires climat telles qu'elles sont engagées, pour que l'événement pas de banquise en été ne se produise plus. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour nous ? On ne sait pas trop, c'est pareil. J'ai lu plusieurs articles, ils sont tous plus ou moins d'accord. Ça va être des événements climatiques extrêmes, donc sûrement des inondations et puis des sécheresses et puis des inondations sur la moitié du pays et des sécheresses. Enfin, vous connaissez, c'est le climat en ce moment. Et du coup, ça a priori, mais en plus. Et voilà, bon courage.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et puis, vous allez voir, on peut être content de vivre maintenant parce qu'il y a des trucs qui ont des sacrés paquets de millénaires qui ont tenu jusque-là. Et là, on peut assister à quelque chose d'incroyable.
Et donc, en effet, les vieux trucs qui disparaissent. Karnak. Karnak, vous savez, c'est un peu le Stone Age Cocorico. C'est plus grand, c'est un peu plus hasardeux, c'est des alignements de
menhirs.
Bah c'est pas des menhirs normalement, c'est des cairns,
des
je crois,
cailloux, quoi.
Des trucs comme ça. Enfin des grosses pierres.
Non, c'est pas des cairns parce que les cairns c'est des tas de petits cailloux.
C'est pas des cairns non plus.
Enfin, c'est le truc d'Obélix ou pas?
Alors Obélix, non, ça c'est un peu merdique.
C'est vrai qu'on n'a pas de légitimité en fait.
Ça marche
hein.
pas.
Ça se confirme. <C'est... rire>
Attendez, oh, c'est
les Gaulois n'ont jamais planté de menhir.
Bon, tout le monde est allé à Karnak.
C'est plus ancien, mais en tout cas, c'est des alignements mégalithiques.
Des mégalithiques en Bretagne, chez nos amis bretons. Qu'on salue parce qu'on n'a pas envie. Enfin, ils sont partout, quoi. Oui, Karnak. Faut se dire, c'est des alignements qui ont environ 6000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le truc, c'est que. Il y a des gens qui avaient l'intention d'inscrire ça au patrimoine historique. Ça a commencé en 1900. De l'UNESCO. Ça a commencé en 1996. 96, pardon. Le processus avait plutôt bien avancé, puisqu'on en était à l'étape finale. Sur le site de l'UNESCO, ils nous annoncent Karnak, monument historique, patrimoine mondial de l'humanité, pour 2025 à peu près. En tout cas, si on suivait la trajectoire qu'on a commencé à suivre. Donc, dans ma phrase, c'était le « si » qui était important, parce que du coup... je vous parle vieille pierre et classement de l'UNESCO après la disparition de la Mauquise. C'est parce que on apprenait hier plutôt qu'une partie du site, un alignement de 39 pierres, a été rasée pour construire un monsieur bricolage. Voilà, c'est pas le plus gros site de la commune, hein, donc c'est 39 pierres sur les 1600 et quelques que compte le site. Par contre, bah, c'était le plus vieux, par contre, voilà. Et du coup, bah, c'était, lui, les pierres remontaient à environ 7000 ans, dont certaines qui étaient dans la position, a priori, exacte, dans laquelle les types l'ont posé il y a 7000 ans, au moment où ils voulaient prouver l'unité des tribus du coin, quoi. Alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Libération, ils disent oui, tout ça, on ne sait pas trop. C'est la DRAC qui n'a pas bien signé un papier, ou alors c'est la mairie qui n'a pas bien signé un papier, ou alors c'est les monuments historiques qui n'ont pas bien signé un papier. Enfin bon, pour l'instant, on en est à chacun se renvoie la faute en disant on fera des communiqués plus tard. Alors, par contre, là où c'est un peu marrant, c'est que le maire du village, c'est le directeur de la société Capgemini. Une merde n'arrive jamais toute seule du coup. Capgemini, pour ceux qui ne voient pas, c'était une entreprise dont, alors là je citerai Wikipédia, un rapport du Sénat met en cause Capgemini comme un exemple caricatural d'optimisation fiscale. Il faut dire que la société, avec un chiffre d'affaires de 21,99 milliards de dollars, n'avait pas payé d'impôts entre 2011 et 2020. Vous pouvez aller voir toute la fiche Wikipédia, c'est génial, elle clignote en rouge au début et puis voilà.
T'as fini?
Ouais, j'ai fini du coup. C'est pour ça que je me tourne vers toi et que je te fais des signes.
Écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre tous les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
C'est ça, ce sage.
Témoignage, blabla, info.
Et après avoir enquêté la semaine dernière sur pourquoi nos jingles se coupaient à 2 secondes, on a enfin trouvé le coupable, c'est l'endroit où on gravait. Du coup, ça va être réglé bientôt, vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par quelques brèves des frontières. D'ailleurs, ce sera l'exclusivité, ce sera des brèves des frontières. Et on va commencer en France. Et fin 2021, les autorités françaises et britanniques avaient laissé couler une embarcation, laissant se noyer 27 personnes dans la Manche. Personne n'était venu en aide au bateau, ni côté français, ni côté britannique. Des échanges radio ont démontré le cynisme des opérateurs et d'opératrices. Et outre le sarcasme de mauvais goût, chaque partie a passé la nuit à se renvoyer la balle avec comme principal souci déterminer si l'embarcation était côté britannique ou côté français. Le 25 mai, déjà 5 personnes ont été mises en examen. Et là, cette fois-ci, il y a deux nouvelles personnes, des militaires, qui viennent d'être inculpés pour non-assistance à personne en danger. Il s'agit de deux patrouilleurs de la marine française qui naviguaient à proximité du canot, enfin à proximité relative, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas juste à côté, peut-être qu'ils ne le voyaient pas, mais en tout cas ils étaient a priori au courant, et ils auraient largement pu intervenir à proximité du canot pneumatique. Alors on ne s'attend quand même pas grand-chose du côté des condamnations, mais en tout cas on s'attend un peu à ce que le procès mette en lumière les usages des gardes-côtes, que ce soit sur nos côtes ou ailleurs.
Ça sache.
En Italie cette fois, et on est toujours dans la rubrique petite table judiciaire sur les doigts de la police, 5 policiers de Vérone, au nord de l'Italie, ont été assignés à résidence. Les faits qui leur sont reprochés, avoir infligé des actes de torture à des personnes arrêtées, principalement des migrants. Et s'ils sont 5 à être assignés à résidence, un inspecteur et 4 simples flics, 12 de leurs collègues sont sous le coup d'une enquête car soupçonnés de les avoir purement laissé faire. Un ex-détenu raconte que les policiers l'ont forcé à pisser dans un coin car il ne voulait pas l'accompagner aux toilettes. Ça s'est passé à la préfecture de police de Vérone. Vous noterez qu'au passage qu'il ne s'agit pas d'un minable petit commissariat de province. La personne a ensuite été frappée et traînée dans son urine. Les faits sont suffisamment graves pour faire sortir dans les médias Matteo Piedosi, ancien chef de cabinet de Matteo Salvini et actuellement ministre de l'Intérieur en Italie, qui a condamné de telles violences qui faisaient honte à la police. Donc coup dur pour cette police du nord de l'Italie. L'affaire arrive à peine une semaine après le passage à tabac d'une brésilienne trans qui a porté plainte après avoir été battue par 3 agents. Une vidéo les montre en train de la frapper à la tête, aux côtes, avec leur matraque, puis à l'asperger de gaz lacrymogène au visage alors qu'elle avait les mains en l'air.
Ça sache.
Et on va faire un tour en Libye où 6000 migrants sont entassés dans un hangar à la frontière égyptienne. D'après Info Migrant, après avoir libéré quelques 6000 migrants d'un entrepôt tenu par des trafiquants, les autorités italiennes et libyennes ont décidé de les entasser dans un hangar près de la frontière égyptienne, hangar qui n'est pas un centre de détention officiel, on va dire. Les migrants libérés prisonniers ont donc quitté un calvaire pour un autre, mais leur enfer ne s'arrête pas là puisque les expulsions ont déjà commencé. De nombreuses personnes ont déjà été renvoyées en Égypte. Cette opération s'inscrit dans un plan de lutte contre les réseaux mené par le gouvernement libyen. Ah non, merde, c'est pas ce jingle d'après.
Alors après un entretien avec le président tunisien Kais Saied, la première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré que les deux pays reconnaissaient l'importance de renforcer la coopération dans la lutte contre l'immigration. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a le soutien inconditionnel de Kais Saied, donc le président tunisien, qui décrétait le 21 février dernier que l'immigration clandestine était une menace démographique pour son pays. Depuis, les attaques contre les migrants africains se sont multipliées sur l'ensemble du territoire tunisien. Alors, concrètement, Giorgia Meloni, ce qu'elle propose pour aider la Tunisie à retenir les migrants et à les empêcher d'embarquer sur la Méditerranée, elle a promis l'aide de l'Union européenne et d'intercéder auprès du FMI pour qu'il accorde des facilités financières au régime tunisien. Les gardes-côtes tunisiens, eux, disent avoir arrêté 5 fois plus d'embarcations au premier trimestre cette année que sur la même période en 2022, et donc un mouvement qui risque encore de s'amplifier avec ces nouvelles aides promises.
Il faut que ça sache.
Et on reste en Italie avec la nouvelle loi italienne concernant les bateaux humanitaires qui commence à sévir, le Sea Ice 4 et le Mare Go, qui est un nouveau navire, sont immobilisés par les autorités italiennes. L'un pour avoir porté secours à plusieurs embarcations à la suite et l'autre pour avoir refusé de se rendre dans le port sûr attribué par le gouvernement italien. Le gouvernement d'extrême droite a adopté début janvier une loi visant à réduire l'accueil des navires d'ONG dans ses ports. Il est dorénavant obligatoire pour les embarcations d'informer les autorités italiennes dès qu'une embarcation est secourue, autorité qui décide du port à accoster, souvent un port loin du lieu de l'opération de secours pour faire perdre du temps aux bateaux. Les bateaux ont également interdiction d'effectuer plusieurs secours à la suite. Il doit donc revenir entre chaque intervention dans un port qui leur est affecté. Le CIS 4 est coupable, lui, de ne pas s'être dirigé immédiatement vers le port sûr qui lui a été attribué après avoir effectué un sauvetage au large de la Libye. Le 28 mai, l'équipage porte secours à 17 migrants. En remontant vers l'Italie, le bateau fait un détour pour porter assistance à un deuxième navire de 32 personnes qui était en danger. Puis il décide de se diriger vers un canot qui lui contenait 400 personnes et qui avait lancé plusieurs signaux d'alerte. Ces 400 personnes ont été plus tard secourues par les gardes-côtes italiens. Le Mare.go a quant à lui refusé de se rendre jusqu'au port de Trapani pour y déposer les 36 migrants secourus le vendredi 2 juin par l'équipage. C'était la première opération de sauvetage pour ce nouveau navire humanitaire qui se retrouve donc cloué par le nouveau décret italien. L'équipage déclare: nous avons décidé de faire route vers Lampedusa car nous avons informé clairement les autorités que le Marego n'était pas équipé pour prendre en charge les personnes secourues pour une si longue période. Il ne précise pas c'était quoi le port italien plus loin où il devait aller, mais bon, en tout cas voilà. Voilà un peu les nouvelles en Italie. Et voilà, et bon, on a fini pour ce soir. On a un petit agenda ?
Non, que dalle.
Il est sur rebellion.info.
Ah, bon, et ben il est sur
vous
rebellion.
Vous savez, ce site pas légitime.
et puis, par ailleurs, si vous restez à l'écoute pendant encore un quart d'heure, vous allez pouvoir écouter Idées Noires qui généralement commence par un agenda.
Voilà, et bien en tout cas, il est.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait pas d'agenda, nous. C'est pour laisser la place au super tout agenda d'Idées Noires.
On peut quand même dire quelques petits trucs vite fait
au
niveau des dates.
Ah, bah voilà. Bah, tu vois, ça te démangeait.
Quelques trucs vite fait au niveau des dates.
Voilà, exactement, merci.
Si ça se trouve, tu vas même pouvoir dire au niveau des lieux, contrairement aux gens qui avaient organisé le rassemblement de 19h.
Bon, si c'est pour me parler comme ça, je me casse tout de suite. Hein. Bon, alors, du coup, demain à midi, rassemblement contre la réforme des retraites. Important quand même.
Ah, donc, mais tu dirais que Laurent Berger se trompe.
Hein ? Laurent Berger, c'est redevenu un mouton. Alors, donc c'est quai aux gagneurs au niveau de la préfecture. Donc demain midi. Voilà, samedi, marche des fiertés à 13h45 à la manufacture des tabacs. Et voilà, moi j'avais que ça à dire, c'est tout.
Oh, bah c'est bien.
Et ben voilà, et ben on vous laisse avec un peu plus de 10 minutes de bande continue. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez Idées Noires et nous on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
C'est le Canu Info du mercredi. Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
Radio Canu 102.2 et on vient d'écouter dans l'ordre Tomahawk, God Hates a Quad, ensuite Cat Power, Good Clean Fun, et pour terminer Shockbore, A Taste for Bitters.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur...